Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio, le grand et beau studio de Radio Foot International sur RFI en cette fin de semaine. Une fin de semaine à la fois bien agitée, bien émouvante aussi, surtout pour tous les amoureux du football. N'oubliez pas, aujourd'hui vous pouvez nous écouter, vous pouvez aussi nous regarder grâce au Facebook Live. Et dans le studio, autour de moi, il y a les habitués de ce Café des Sports du vendredi. Bonjour Rémi Ngono.
Bonjour Annie. Merci. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices et aussi auditeurs et auditrices.
Ouais, voilà, vous avez fait le tour de tout le monde. Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie, pas mieux.
Pas mieux, bon. Alors on va passer au réfé. Bonjour Alejandro.
Bonjour
Valente.
Annie.
Merci d'être là aujourd'hui en cette fin de semaine. Et nous commencerons aujourd'hui évidemment par le dernier hommage des Argentins à leur idole. Hier, alors que son corps reposait déjà auprès de ses parents, ses milliers de fans et d'admirateurs ont encore chanté ses louanges. Et à Naples, son éternel club célébrait sa mémoire en silence et avec élégance. Hommage à Maradona. La Ligue des champions des clubs français, pas de quoi se réjouir. L'OM a engrangé sa 13e défaite consécutive. Le crash de son Champions Project va-t-il plomber la saison des Phocéens, la saison actuelle bien sûr. Le PSG, lui, a gagné, mais l'équipe inquiète, ses buteurs aussi, son entraîneur encore plus. Iront-ils loin, ces Parisiens, en Ligue des champions ? Les buteurs européens en verve, CR7 qui a porté son record à 131 buts et Haaland de plus en plus grand devant les cages adverses. Enfin, il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres. Swell Kedir et Leonardo sont à la réalisation vidéo de cette émission. Laurent Salerno à la réalisation radio. David Finzel et Pierre-Olivier Guérin m'ont aidé à préparer l'émission Radio Foot. C'est parti. Alors, Diego Maradona, c'était hier à la fois la veillée funèbre dans Buenos Aires et c'était aussi le moment de ses obsèques. Diego Maradona repose désormais en paix avec les siens dans le petit cimetière jardin de Bella Vista. Son cercueil a été déposé hier soir dans le caveau familial en présence de ses proches. Autour, dehors, des milliers d'Argentins s'étaient postés. Ils se sont postés aussi tout le long du trajet de son dernier voyage. Ses fans s'exprimer comme il le pouvait, en chantant à sa gloire, en pleurant, en portant ou en brandissant des maillots de Boca Juniors ou de l'Argentine. Loin de Buenos Aires, mais dans le même élan, l'hommage de la ville de Naples, qui a fait une haie d'honneur d'abord au bus des joueurs de l'ancienne équipe de Maradona. Pour le match de Ligue Europa contre les Croates du Rekia, tous les joueurs sont entrés sur la pelouse avec tous le même maillot, un maillot bleu portant le numéro 10 surmonté du nom Maradona et ils avaient un brassard noir autour du bras. En plus, ce match, Naples l'a gagné. C'était un bel hommage à Diego Maradona. Xavier, je sais que vous commentiez ce match.
Oui, je commentais le match sur RMC Sport. Et c'est vrai qu'il y avait cet hommage rendu par les joueurs quand ils sont rentrés sur la pelouse. Mais le plus bel hommage a quand même été celui du public napolitain, des supporters qui étaient autour du stade et qui chantaient. Ce qui fait qu'on entendait leur chant, même si le stade était à huis clos. Et plus que jamais, on regrettait que ce match soit à huis clos parce que c'était un match assez anonyme de Ligue Europa entre Naples et Rijeka qui est d'ailleurs éliminé désormais, mais le fait qu'il y ait eu le décès de Maradona la veille fait que ce stade, il aurait été plein et cet hommage qui a été rendu dans les rues, il aurait été tellement mieux dans le stade et c'est vraiment dommage que les autorités italiennes qui gèrent cette pandémie comme elles le peuvent, n'aient pas justement ouvert les portes du stade, parce que finalement les gens, ils auraient été pas plus éloignés dans le stade qu'ils l'étaient dans les rues. Hein. Donc ça, c'est vraiment, vraiment regrettable qu'on n'ait pas eu ce spectacle qu'ont offert les supporters napolitains dans le stade San Paolo.
Rémi Ngono, est-ce que selon vous, tous ces hommages qu'il y a eu depuis les dernières 48 heures étaient à la hauteur de la légende ?
Oui, et d'ailleurs, j'en étais un peu jaloux par rapport à nos footballeurs africains, parce qu'il faut se dire que le 31 juillet 2020, Diego Maradona rendait hommage à Tato Stephen, le capitaine des Lions Indomptables, qui, lui, il est mort dans l'anonymat, souffrait, et les autorités l'avaient complètement abandonné. Tout comme la plupart de ceux-là qui avaient rencontré Diego Maradona à la Coupe du Monde de 1990, parce que ils rêvaient de toucher Diego Maradona, et finalement, ils avaient réussi à vaincre Diego Maradona. Et Maradona avait été très fair play, avait embrassé les Thomas Kono, il avait embrassé les Massing, qui d'ailleurs avaient été exclus. Il avait d'ailleurs rendu hommage à Benjamin Massing. Il avait rendu hommage à Tato. Bon, malheureusement, les deux étaient des capitaines. Et en 2020, comme j'appelle cette année, peut-être Anus Horribilis, que pratiquement on a vu des grands sportifs ou encore des personnalités partir comme ça. Mmh. Donc, j'imagine au moins, comme il disait, que la seule chose qu'il aimerait au moins aller refaire, j'espère qu'il va encore livrer ce match magnifique, cette compétition magnifique au ciel où il y a pas mal de personnalités. Donc, l'hommage avec cette période de Covid et voir des gens qui se sont mobilisés comme ça, voir le monde entier... Franchement, pour une fois, on avait envie de mourir. Sauf que mourir n'est pas aussi facile.
Rémi. Alejandro, c'était pas surprenant, vu l'élan de passion que suscitait Diego Maradona depuis toujours, on peut dire pratiquement.
Moi, j'étais pas surpris de voir l'Argentine s'est mobilisée comme ça. J'étais pas surpris de voir Naples, mais j'étais quand même un peu admiratif devant la mobilisation qui a eu lieu dans le monde entier, y compris ici en France. Je m'attendais pas à autant d'hommages, à autant des beaux articles, des belles images, des gestes divers, mais qui ont été touchants. Je pense que ça a été quand même
au-delà.
Une semaine qui a été à la hauteur de celui à qui on rendait hommage.
Ce matin, il y a encore eu des déclarations très belles et je voulais simplement les signaler. Celle de Jürgen Klopp de Liverpool qui disait « Je l'ai rencontré une fois et pour un joueur de mon niveau, on sait qu'il n'a pas joué longtemps, Jürgen Klopp, en tout cas pas à un grand niveau, c'était comme rencontrer le pape », a-t-il dit. « Je me suis dit que si nous lui avions montré notre amour pour lui quand il était encore parmi nous, sans chercher à juste faire un selfie, mais en lui montrant simplement le respect qu'il méritait, je pense que nous aurions pu l'aider. » Et puis il y a aussi cette déclaration de José Mourinho qui a rencontré Diego Maradona, mais qui surtout racontait que Diego Maradona l'appelait après chaque défaite pour lui exprimer son soutien en lui disant « tu es le meilleur ». Alors, il y a eu aussi un hommage touchant à Alejandro, c'est celui d'un Syrien, et ceux qui nous regardent en Facebook Live vont pouvoir le voir. C'est une nouvelle fresque qui existe, c'est un jeune artiste syrien qui a peint le visage de Maradona, qui en a fait une fresque sur un mur d'une ville en ruine, puisque c'est la ville de Syrie, d'Idlib, qui avait été au centre de tant de combats, et ce jeune artiste a dessiné. Lui aussi, le portrait du Pibe de Oro, le soleil, le drapeau, et sur une maison totalement détruite. Il va nous manquer, Diego Maradona, mais vous le savez, les stars comme lui ne meurent jamais. Diego est éternel.
La nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, la quatrième de rang.
Il a fallu attendre la 85e pour voir enfin Paris nous proposer quelques séquences dignes de ce nom.
Plus de plaisir à discuter avec vous qu'à regarder le match.
2-0 pour Porto sur la pelouse de l'Olympique de Marseille.
Marseille n'ira pas en 8e de finale de la Ligue des Champions après cette défaite 2-0.
Une quatrième soirée de Ligue des Champions qu'on avait un peu oubliée, évidemment, au fil de ces événements. Il y avait surtout déjà le nom des premiers qualifiés pour le tour prochain, au soir de ces matchs. Les six qualifiés pour l'instant sont Barcelone, Juventus, Chelsea, Séville, Manchester City et le Bayern Munich. Évidemment, vous l'aurez noté, au milieu, il n'y a pas de club français, en tout cas pas encore. Ce que l'on sait, c'est que des trois clubs engagés, deux sont déjà éliminé, le stade Rennais et puis l'OM. L'Olympique de Marseille a un bien triste record, 13 défaites successives en Ligue des Champions, 0 point marqué, 0 but, 0 pointé, Rémy Ngono pour l'équipe de Marseille.
Mais pour l'instant, c'est pas encore. Si vous prenez le classement là, vous renversez. Marseille est quand même premier.
Hein. Jamais les premiers.
Premier à l'envers, donc. Et d'ailleurs, Marseille continue sa chevauchée. Puisque là, nous, on est même en train de faire une émission de façon précipitée. Puisque Marseille est quand même sûr d'aller à 15. À 15 défaites. Donc, pour une fois, c'est une équipe qui a remporté une Ligue des Champions.
C'est pas sûr.
Non, ils peuvent gagner contre Olympiakos lors de la prochaine journée. On leur souhaite d'ailleurs que cette série,
il y aura pas Valbuena.
Que cette série noire s'arrête.
Oui,
non, mais c'est quand même une très grande
désillusion. On le souhaite, mais le problème, c'est qu'on souhaite ça. Que ce soit en Ligue Europa, on a vu Marseille dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sortir par la petite porte. Je dis bien en Ligue Europa, Marseille n'a pas été capable de faire de bonnes prestations.
C'était il y a deux ans.
Et maintenant, on voit quand même ce qui arrive en Ligue des Champions. Mais là, ils ont déjà pris 9 buts. 9 buts en 4 matchs, c'est-à-dire que les gars, ils sont à 2 buts et demi encaissés par match. Ils n'ont pas encore joué le match retour contre City. Bon, et de surcroît, quand on essaie de voir véritablement cette équipe de ce n'est plus Mandanda qu'on appelait le phénoméno, ce n'est plus tel qui est ceci et cela, c'est vraiment...
Non.
Donc aujourd'hui, Marseille a remporté la Ligue des Champions. Maintenant, Marseille va remporter la Ligue des Nuls, comme le dit justement un proverbe africain, après Noël vient le carême.
Noël, Xavier.
Oui, non, mais c'est une vraie désillusion parce que on savait que Marseille avait des limites. On savait que cet OM, qui n'avait pas les moyens de recruter de joueurs importants, qui devait dégraisser un effectif et compte tenu de la pandémie, qui n'a pas pu le faire. Donc, on savait que cet OM était limité, mais on se disait le tirage au sort l'a un peu aidé puisque Manchester City faisait figure de grand favori dans ce groupe. Ils sont d'ailleurs en tête. Et puis, on se disait Porto, qui est un peu moins bien, et l'Olympiakos, qui est le champion de Grèce. Mais bon, voilà, le football grec est tombé plus bas, même s'il y a beaucoup d'étrangers dans cette équipe, on se disait que c'est à la portée de l'OM. Eh bien, finalement, non. Et ce qu'il y a de plus frustrant dans cette situation, c'est que l'OM, effectivement, défensivement, ils prennent des buts, ça, on pouvait s'y attendre. Mais c'est surtout offensivement, c'est le néant absolu. Donc il y a aucune, enfin il y a des attaquants mais ils servent presque à rien. Thauvin, dont on espérait la renaissance, on l'attend toujours. Payet, lui, ça y est, il est déjà en pré-retraite. Le pauvre Benedetto, il est bien loin des hommages qu'il pouvait rendre à Maradona. Donc on est vraiment face à une équipe qui est impuissante. Et ça c'est terriblement frustrant parce que parfois on peut se dire ils ont, comme les Rennais, Rennes a pas de chance, Rennes se fait un peu voler à Chelsea. Bon, on dit c'est la naïveté du débutant, mais l'OM, ils sont vraiment impuissants, c'est ça qui est terrible.
Alejandro, une impuissance physique ou aussi une impuissance mentale?
Je pense que malheureusement, les défaillances se voient à tous les niveaux, y compris au poste d'entraîneur. André Villas-Boas, dont on espérait beaucoup mieux et qui n'a pas trouvé les ressorts pour remonter son équipe, pour la porter. Au contraire, je pense que ces déclarations, et notamment celle où il disait que l'OM produisait de la merde, c'est pas de nature à probablement mettre son équipe dans la bonne direction et dans le bon sens. Après, je pense que l'OM a quand même les qualités pour mettre en difficulté une équipe comme Olympiakos, voire même pour essayer de se qualifier pour la Ligue Europa. Ce n'est pas encore totalement impossible.
Rien n'est impossible, c'est sûr.
Est-ce que ce serait une bonne chose?
Oui,
est-ce que
plus...
ce serait une bonne chose? Parce que finalement, aller en Ligue Europa avec un tour de plus par rapport à la Ligue des Champions pour gagner des clopinettes, parce que c'est une compétition qui est très peu dotée, contrairement à la Ligue des Champions, alors que vous êtes en difficulté financière,
qui prend
beaucoup d'énergie. Exactement, les déplacements, les primes de match qui restent quand même en général à payer quand les joueurs obtiennent des points. Donc, à l'arrivée, c'est peut-être aussi simple, vu de la situation, que l'OM se fasse éliminer pour se concentrer sur le championnat.
Justement, on va écouter André Villas-Boas se projeter un peu sur la fin de la saison, même si on est à peine à Noël, mais sur la fin de la saison de son équipe.
On ne peut pas faire rien sur les 13 défaites, sont déjà là, marquées. Je ne peux faire rien. Évidemment, ça, on a touché le fond. On avait déjà touché le fond là à Porto. C'est le moment d'être à côté de mes joueurs, de le supporter, de lui donner une force et une confiance pour la suite. Alors la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. On a travaillé comme jamais. J'ai travaillé comme jamais pour ces 2 matchs. Et parfois, les choses sont comme ça. Tout sort mal à ce moment-là. Et à chaque fois, c'est plus dur encore. C'est pour ça que notre parcours là dans le championnat reste bon et intact. Maintenant, concentrer, serrer les dents, gagner comme il faut pour continuer à rêver avec le championnat.
Rémi, est-ce que ces défaites en série et quand même sur la scène européenne avec Florian Thauvin il y a quelques heures avant le match, hein, parler de honte pour l'équipe, le ressenti, est-ce que ça peut plomber toute la saison, et c'est-à-dire au moins, on ne sait pas s'ils iront en Ligue Europa, mais le championnat de France, la Ligue 1?
Ça dit à plomber. Et puis, je suis pas d'accord avec Xavier Barré.
Ils sont cinquièmes. Oh.
Je suis pas d'accord avec Xavier Barré parce que là, il dit, OM n'a pas eu de moyens pour recruter. Mais disons quand même que OM a toujours eu des moyens par rapport à tous ces clubs-là. Mais le problème, c'est que moi, je vois que tout le monde qui arrive à l'OM, c'est vraiment, il baisse. Et quand il part, il devient compétitif. N'oublions pas Ocampos. Ocampos vient d'être à l'OM, mais
enfin, pratiquement. Campos, à l'OM, il était bon.
Oui, mais pas,
oui, mais il n'était pas aussi bon que ça. Maintenant, regardez ce qu'il est devenu.
Campos,
il était un joueur
aussi.
Moyen.
Il
mais parce que quand je vois, même à l'Euro 2016, tout le monde chantait Payet ici, qui avait quand même été recruté par l'OM à 10 millions à l'époque. C'était pas des clopettes, hein. Et puis, quand je vois, par exemple, Thauvin, même Mandanda, ils étaient quand même champions du monde, de toutes les façons, quoi qu'on dise.
Mandanda, il essaye d'arrêter les buts, c'est pas lui qui va aller les marquer. C'est
ah oui, mais, comme je t'ai dit donc, Thauvin était bel et bien là. Et non, comme mais... tu dis, Thauvin a été recruté pourquoi? Quand on voit
je
la saison de Thauvin,
Thauvin,
vous le voyez, il part à l'OM, il était à Lille, il était performant, il marque d'ailleurs 12 buts et 12 passes décisives, mais cependant, quand il arrive à l'autre côté, à l'OM, ça ne donne pas. Moi, je dis aujourd'hui, il y a un véritable problème avec l'OM, c'est peut-être une mentalité, parce que les gens se disent que nous avons remporté la Ligue des Champions, nous restons là, assis, et puis peut-être nous sommes le meilleur club de France, et
non,
finalement,
peut...
chaque saison, l'OM arrive en compétition, il faut qu'ils arrêtent. Autrement dit, c'est
ça,
comme des moutons,
de
et quand on se fait mouton, on se fait
tomber
le diable
au
rêve africain.
Ils ont été en finale de l'Europa League il y a 4 ans, il y a 2 ans. On peut pas dire qu'ils étaient complètement nuls. Effectivement, il y a une période qui a été mal gérée, c'est cette après-finale d'Europa League, avec derrière une saison très mitigée, avec les choix, les recrutements de joueurs vieux et cher, Strootman, Payet, à qui on a offert des contrats longue durée avec des énormes salaires et qui aujourd'hui plombe les finances du club. Donc effectivement, cette partie-là a été mal gérée. Mais sportivement, on peut pas dire que l'OM est nul depuis toutes ces années. Allez. Ils arrivent en finale de l'Europa League, ils bataillent presque chaque année pour aller en Ligue des Champions. Cette année, ils y vont, manque de peau, ils ont pas les moyens de figurer
au dehors. Nos auditeurs s'intéressent à ces débats sur Facebook Live et par exemple, Elias Jovapo offre une autre piste. Ici, cette équipe manquait tout simplement des chances. C'est vrai qu'il y a eu le poteau de Benedetto, le pénalty manquait des Payet. Ils auraient pu faire un peu mieux, peut-être.
C'est ça qui fait que Payet, toujours à cause de la malchance, lui ne parvient jamais à marquer. Mais attendez, à chaque fois, vous dites malchance. Et...
C'est les auditeurs, mais... c'est pas non. Les fondreaux.
Ah
vous
ouais,
en prenez pas les fondreaux.
Vas-y, il est en train d'aller trouver un prétexte là avec cet
alors,
auditeur.
Non, un poteau, alors... oui, mais un pénalty manqué à ce niveau-là, c'est pas normal.
Bon, on suivra l'OM, notamment dans les prochaines journée de championnat. Dans ce derby que partagent l'OM et le PSG parfois, on se demande qui en sort gagnant. Au Parc des Princes récemment, ça a été l'OM, mais là c'est le PSG qui devait et qui a remporté son match. Il a gagné par 1-0, un pénalty d'ailleurs. Il y avait pénalty, Rémi ?
Non.
Bon.
Xavier. Non, pénalty cadeau, vous pouvez le dire.
On est tous d'accord. un pénalty chanceux, on va dire. Là, c'est
cadeau.
La chance. Là,
cadeau.
C'est
cadeau.
Et à nuance entre cadeau et chance.
Et chanceux, d'accord. Et donc, en tout cas, ça lui a permis de marquer 3 points à ce PSG et d'espérer encore décrocher la qualification pour les 8e de finale. Pourtant, Paris inquiète. Parce que Paris a été dominé comme jamais peut-être. Que retenez-vous donc de cette aventure et de ce match? Le résultat, comme Thomas Tuchel, qui s'est beaucoup énervé, on va y venir après, ou la manière assez consternante décrite par les observateurs qui critiquent beaucoup Alejandro Valente?
Moi, je pense que les matchs a été quand même très décevant du côté du Paris Saint-Germain. On a vu une équipe des Leipzig qui a dominé pratiquement pendant 90 minutes. Donc ça, c'est un premier problème décevant. Et l'autre, c'est quand même l'attitude un peu étonnante de Tuchel qui
prend,
qui prend très mal les critiques, alors que quand même, on peut espérer beaucoup mieux d'une équipe aussi riche et aussi bien dotée que le Paris Saint-Germain.
C'est vrai que le jeu du PSG était affligeant. C'est une grosse désillusion de voir.
C'est de la faute de l'entraîneur ou de ses joueurs?
Deux mois, bah, probablement, c'est les torts partagés. Mais l'entraîneur, vous avez dit qu'on en parlerait après, donc je vais attendre. Mais pour ce qui est des joueurs, on peut dire effectivement, il y a la fatigue, il y a les blessures. Mais bon, ça, c'est le cas de toutes les équipes. Le PSG, peut-être un peu plus quand même marqué que d'autres.
Ils étaient finalistes.
Ils ont été en finale de la Ligue des Champions. Mais on sait que cette finale de la Ligue des Champions, elle s'est déroulée dans un contexte particulier. Ils étaient à Lisbonne. Ils étaient en mission commando pour cet objectif. Et les joueurs ont su se mobiliser pour y arriver. Et ensuite, ils sont un peu partis en vacances rapidement et ils n'ont pas eu de préparation pour la reprise du championnat, qui a d'ailleurs été un peu perturbé pour le PSG. Et donc, du coup, je pense qu'il y a effectivement un vrai souci athlétique, un vrai souci même aussi psychologique pour les joueurs qui doivent se remettre à l'ouvrage avec des matchs contre Dijon et contre Lorient, avec toujours en tête cette Ligue des Champions ils sont arrivés en finale.
Vous croyez qu'à Leipzig, ils n'ont pas des cadences infernales, ils ne sont pas à disputer un championnat comme l'allemand, qui est quand même beaucoup plus...
On le dit assez souvent, c'est que ça a été complètement différent, la sortie de la pandémie pour les Allemands. Oui. Ils ont terminé leur championnat...
Fin juin.
Pratiquement dans les temps normaux, et eux ont eu une véritable préparation. Il y a quand même, quand on regarde l'évolution des clubs allemands, en tout cas c'est ce qu'on dit régulièrement dans Radio Foot International, ce sont des clubs qui, d'une façon générale, s'en sortent beaucoup mieux.
Il faudrait que l'Ortolari sorte du corps de
la Ligue. J'écoute beaucoup notre ami David L'Ortolari.
Le PSG a l'avantage d'avoir un championnat qui est quand même un championnat beaucoup plus faible et qui ne le met pas dans des situations trop stressantes.
Sauf à Monaco.
Et d'ailleurs, malgré le fait qu'ils prennent ce championnat un peu par-dessus la jambe, ils perdent beaucoup de points et pourtant ils arrivent en Ligue des Champions toujours fatigués.
Rémi, pour vous, c'est plus il faut plus retenir le résultat et le fait qu'ils sont toujours en vie, comme on dit, après un début de parcours en Ligue des Champions chaotique, ou vous retenez la manière, c'est-à-dire un match assez indigeste?
Je retiens la manière, parce que depuis 2014, quand même, je voyais comment est-ce que l'équipe titrait, et si c'était la bonne saison. Alors, nous sommes quand même en 2020, et surtout que l'année dernière, beaucoup de gens disaient déjà que le PSG
méritait... Ça veut dire que vous avez déjà vu le PSG jouer mieux?
Oui, j'ai déjà vu le PSG jouer mieux. C'est-à-dire que là, c'est le PSG, au lieu de progresser, va plutôt décrescendo. C'est ça qui est très ahurissant. Surtout qu'au niveau du milieu du terrain, je me demande comment est-ce que ça se passe comme ça. Et puis, je vois également Neymar qui devrait tirer peut-être cette équipe-là et tous ces joueurs-là, ils n'y sont pas. Donc, à une certaine...
Il y avait pourtant Marquinhos en défense centrale.
Oui, Marquinhos peut être en défense centrale, mais parfois, je me dis même que est-ce qu'il n'est pas mieux au milieu du terrain qu'en défense centrale. Donc, lorsqu'on essaie de regarder quand même cette équipe du PSG, on se dit quand même, ils ont pris... On se disait qu'avec Ganagay, ça allait faire un certain... Ça allait rendre le milieu de terrain un peu plus costaud. On se disait qu'avec des joueurs qui pouvaient avoir comme des bons ailiers de débordement, qu'ils allaient pratiquement mettre toutes les équipes en difficulté. Mais là, moi, je suis en difficulté actuellement pour analyser l'équipe du PSG dans la mesure où je vois quand même qu'ils sont sortis en 2018-2019. Ils étaient dans le groupe de la mort où ils ont réussi à s'en sortir devant Naples et devant Liverpool. J'ai quand même vu que ce PSG avec le Real Madrid dans un autre groupe de la mort, ils ont réussi de bonnes prestations. Et là, ce PSG... C'est hallucinant.
Mais ils sont pas encore, ils sont toujours en vie, comme on dit. Mais la question aussi qu'on peut se poser, c'est autour de Neymar et Mbappé. C'est ce beau duo quand on les a vus évoluer ensemble, on prenait plaisir à voir leur complicité, même sur le terrain. Là, on a l'impression qu'ils sont dépassés. Alors, même si Neymar, notons-le bien, a marqué le penalty, parce qu'on se souvient que dans le match d'avant, Di Maria avait manqué le sien. En tout cas, Neymar, si on enlève ce penalty, n'avait pas marqué depuis 6 matchs en Ligue des Champions. Parlons même pas de Mbappé qui ne marque plus depuis un an, depuis décembre 2019. Qu'est-ce qui leur arrive selon vous, Xavier Barret ?
Il y a aussi, parce que eux, en plus de jouer tous les matchs du PSG, en tout cas quand ils sont pas blessés, ils jouent avec leur équipe, avec l'équipe nationale.
Tout l'effectif du PSG.
Presque tous. Neymar a fait un aller-retour au Brésil, même s'il a pas joué tous les matchs de la Seleção. Mbappé est resté.
Il en a joué aucun d'ailleurs.
Il en a joué un.
Mais non, il en a pas joué. Il était blessé, il est rentré tout de suite.
Mais il a fait l'aller-retour. Et donc Mbappé, lui, était avec l'équipe de France. Il est resté avec l'équipe de France, même si on savait qu'il pouvait pas jouer, en tout cas pas les deux premiers matchs. Donc du coup, il y a cette fatigue qui s'accumule aussi pour eux, parce que ça a beau être des super joueurs, c'est pas des surhommes. Et puis il y a aussi le fait qu'on compte de plus en plus sur eux. Le jeu du PSG qui était si collectif à l'époque de Laurent Blanc et encore un peu avec Unai Emery, il est complètement dépendant aujourd'hui de Neymar et de Mbappé.
Bah moi, je pense que le problème, c'est qu'ils jouent entre eux. C'est-à-dire, c'est le PSG, c'est 9 joueurs plus Neymar et Mbappé qui apparemment se regardent tout le temps entre eux. Ils essayent de toujours faire des échanges entre eux et ignorent totalement le reste de l'équipe qui est souvent à courir pour essayer de récupérer des ballons et essayer de leur enfiler. C'est pas un jeu collectif du tout, pour moi, celui du PSG aujourd'hui.
Même individuellement, il n'y arrive pas. Moi, j'ai vu.
Il court très peu, apparemment, les statistiques.
Oui, hein, il court 8
kilomètres,
pas,
quoi, on dirait Mbappé. Certains disaient qu'il avait marché. On dirait même que
Mbappé, lui, il a déjà envie de vite aller au Real, même à partir de janvier. Donc, finalement, quand on essaie aussi de voir Neymar, qui pourtant, selon les informations que nous avons, est en train de vouloir prolonger avec le PSG, mais on ne voit pas comment est-ce qu'il fait véritablement des efforts, surtout que de l'autre côté, au Barça, il y a des élections qui vont arriver là. Donc, peut-être il se dit aussi qu'il peut avoir une autre possibilité de se relancer là-bas, même si les finances sont pas bonnes. Mais moi, je crois quand même que lorsqu'on essaie de regarder aujourd'hui le niveau de Mbappé et le niveau de Neymar, non seulement collectivement, ils ne s'adonnent pas, mais individuellement, ils sont à moins de 10 sur 20.
Alejandro ?
Je regarde les messages qui arrivent sur Facebook Live et je ne sais pas si c'est parce qu'il a dit qu'il avait envie de mourir, mais Rémi reçoit énormément de messages de soutien. Oh. Et il y a notamment...
C'est des hommages avant l'heure.
Aimé Domba qui veut saluer Rémi qui est tout seul face aux autres, il dit. Et il cite un proverbe africain qui dit... Les fourmis marchent ensemble pour ne pas mourir lorsqu'elles croisent le lézard.
Ah, justement, je suis le président des fourmis magnan.
Alors, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, parlons-en, parce que on se souvient de son arrivée. Il était venu tout auréolé de ce tacticien doué qu'on connaissait du côté de l'Allemagne. Et puis, au fil des jours, malgré la finale, donc disputée récemment, on a l'impression que cet entraîneur perd la main. En tout cas, peut-être il perd patience. A-t-on perdu Thomas Tuchel ? Sa dernière conférence de presse nous a laissé le croire.
J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire si vous avez des de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur. On est tous physiquement et je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué.
Il est fatigué ou il est fatigant, Thomas Tuchel?
Non, moi je vais prendre sa défense parce que d'abord il n'est pas français. Il s'exprime très bien en français, mieux que Unai Emery.
Ça n'a rien à voir avec l'élocution.
Ensuite, je crois qu'il en était à 6 conférences de presse en 8 jours.
Enfin, il est payé pour ça, hein, Xavier, il est obligé.
Oui et non. Oui, il est obligé, comme vous le dites. Mais quand vous êtes dans une structure comme le Paris Saint-Germain, qui a un président, qui a un directeur sportif, etc., c'est lui qui se retrouve toujours en première ligne. Est-ce que vous trouvez ça normal?
C'est l'entraîneur qui va après un match.
Oui, ou il y a aussi un directeur sportif qui, d'ailleurs, lui, s'exprime très bien en français et qui s'exprime de temps en temps. Et moi, l'une des dernières conférences de presse où j'étais au Parc des Princes, j'allais partir et à ce moment-là, on m'a retenu, on m'a dit, attendez, il y a Leonardo qui va s'exprimer. Il dit, Leonardo, super, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Et il s'est exprimé juste pour dire, en public, pour dire que Tuchel n'avait pas à dire que l'effectif ne lui convenait pas. C'était la fin du mercato.
Il ne parle pas trop.
Parce que depuis, il s'est exprimé à nouveau, Leonardo, et c'est plutôt quelqu'un qui a son propre fond. Peut-il répondre
comme ça
sur le fond, je pense
des
qu'il y a,
explications.
Il y a de sa part forcément un énervement qui est compréhensible. C'est vrai que les questions sont souvent un peu les mêmes parce que le PSG déçoit dans sa façon de jouer et lui je pense qu'il attend un petit peu plus de reconnaissance, non seulement du fait d'avoir amené le PSG en finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire,
mais aussi il l'a eu, à part que
15 jours après ou 3 semaines après il se retrouve déjà sous le feu des critiques et surtout Annie, il se retrouve avec un club qui ne lui propose rien. il est en fin de contrat. Il amène le club en premier.
C'est une histoire de contrat.
Donc on parle d'un entraîneur qui est perdu. Il sait qu'il est en sursis, Annie, et donc il vient continuer à faire son numéro devant les journalistes, alors qu'il sait très bien qu'il va être. Donc, bah ça, je pense que son travail c'est plus sur le terrain que de s'exprimer.
Rémi, vous êtes d'accord avec Xavier Barret?
J'ai dit que j'allais le défendre.
Je suis fatigué de Xavier Barret. Ce type est fatigant.
On changera la semaine prochaine.
Ce type est fatigant. Mais c'est pas possible. Mais vous avez là un entraîneur qui a pris une remontada avec une équipe B de Manchester United. On a laissé. Ce gars, il se prend les remontadas. Regardez comment il joue dans le championnat.
La remontada, c'était Unai Emery. Il faut mettre les fiches à jour, monsieur.
Tu viens voir comment il fait avec les petites équipes contre Manchester United. Voilà, c'était contre Manchester United.
Contre Barcelone.
Voilà, je vous ai dit, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué comme lui. Donc, à une certaine période, lorsque vous avez un type comme les Di Maria, vous avez Neymar, le joueur le plus cher du monde, vous avez le plus grand talent que Pelé a lui-même eu, et même Maradona, qu'il reconnaissait comme étant un éventuel successeur, c'est-à-dire que Mbappé. Et puis vous ne parvenez pas à les faire jouer. Et puis vous venez là, vous dites, oh, vous faites le
jeu. On a eu Ancelotti, on a eu Unai Emery, on a eu Laurent Blanc. Qui est-ce qui a amené le PSG en finale d'une Coupe d'Europe?
Laurent Blanc jouait mieux.
Ils avaient beaucoup de très bons joueurs.
Ce monsieur est en train d'accuser les journalistes comme les dictateurs africains.
C'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, laisse les dictateurs africains.
Attendez.
C'est pas la peine. C'est pas la peine de.
J'ai dit le rôle d'un entraîneur.
Le rôle de l'entraîneur
est de répondre aux journalistes et de répondre aux critiques lorsque l'équipe ne joue pas bien.
Il a répondu qu'on ne peut pas manger du miel sans supporter les piqûres d'abeilles.
Alejandro, pour terminer.
Les auditeurs ne soutiennent plus Rémi. Ils soutiennent Xavier Barret maintenant. Il y a Xali Amadou qui dit que Xavier Barret, tu es les meilleurs, laisse Rémi bavarder.
Bavasser, oui.
Continuons. Allez, on a retrouvé Tuchel. Alors, Xavier lui a tendu la main. Continuons avec un but qui, pour l'instant, fait l'histoire.
Cristiano Ronaldo, la frappe de Ronaldo, évidemment!
Ronaldo col sinistro! E questa volta CR7 fa centro e questa volta i gol sono 749 e questa volta la Juve ha trovato il pareggio.
Rémi, vous avez l'air fasciné, Rémi. Il accumule les buts et il travaille son record, lui. Cristiano Ronaldo a inscrit son 131e but dans la compétition. Qui est deuxième? Vous voulez pas dire son nom? Allez, Alejandro, c'est ça Lionel. Vous le dire.
C'est un certain Lionel.
Avec un Argentin. Avec 118 buts, le troisième, c'est Robert Lewandowski qui a marqué cette semaine et qui a rejoint Raoul. Ils sont à 71 buts. Cristiano Ronaldo, 131 buts. Plus rien ne vous surprend, Rémi? Parce qu'il a sonné la charge, là. Ils étaient menés 1-0, ils ont fini par gagner 2-1.
Mais il faut surtout regarder que beaucoup l'appelaient Penaldo, sauf qu'en 12 matchs, il a inscrit 10 buts sans pénalty. L'autre, lui, il n'a inscrit qu'un seul but qui n'était pas sur pénalty. C'est lui qu'on dit que lui, Messi Naldo. Bon, maintenant, on essaie de regarder au niveau de la saison pour un vieillard comme lui. On se rend quand même compte qu'il a 37 buts en 2020 sur 36 matchs qu'il a disputés. Quand on essaie de regarder maintenant même...
Mais parlez-moi de l'homme, du buteur que vous admirez.
Mais c'est pour ça que je vous dis que quand vous regardez la facilité, surtout que... Il maîtrise et des deux pieds et des deux et de la tête et de la tête parce qu'il a deux têtes d'ailleurs de toutes les façons. Regardez quand même que Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions non seulement est le meilleur buteur mais il est aussi le meilleur passeur. Retenez qu'il est le meilleur buteur même aussi en phase de poule. Retenez qu'il est aussi le meilleur buteur même en finale. Retenez qu'il est le meilleur buteur dans tous les domaines. D'accord. Donc pour moi aujourd'hui Ronaldo enfin. Comme Maradona est parti, on a déjà un autre Dieu.
Alors, je suis sûre que tous les auditeurs sont d'accord avec Rémi. Alejandro, c'est même pas la peine de regarder les réactions sur votre smartphone.
Il va chercher un catalan.
Alors, vous dites qu'il est vieux, que c'est avec ses 131 buts en tout cas.
Non, mais puisque vous en parlez, il y a par exemple Florent Maïmonet qui dit qui dit « Ronaldo et Messi ont fait des meilleures carrières que Maradona et Pelé, mais les vieux veulent toujours nous imposer leur vision. »
Oui, alors le problème, c'est que ce n'était pas la même époque et qu'on ne faisait pas 50 matchs à chaque saison. Le buteur sur lequel on a voulu s'arrêter, nous, c'est ce géant norvégien qui succédera peut-être au géant suédois.
Baby aus, gerade aus der Kita raus. Dortmund flippt jetzt völlig aus. Haaland, Haaland, Haaland. Er trinkt wohl Kerosin als Sprit. Wenn er rennt, hält keiner Schritt. Er rettet Favres Arsch gleich mit.
Je vous conseille de regarder les images de ce petit clip qui sont vraiment délicieuses et surtout très drôles qu'a découvert David Finzel. Avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a inscrit un doublé en Ligue des Champions. Il a déjà atteint 16 buts dans cette compétition. Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre ce total de buts. Haaland qui a 20 ans.
En Ligue des Champions. Il faut rappeler quand même que la saison dernière, il avait fait la phase de poule avec Salzbourg et qu'il a été transféré en janvier à Dortmund.
Et donc,
il marque que ce soit avec Salzbourg ou avec Dortmund.
Mm-hmm. Ouais, j'avais pas dit le contraire, j'avais même dit que c'était 16 buts en Ligue des Champions. Mais Xavier, est-ce que ce joueur, il en est déjà à 17 buts en Bundesliga cette saison. Ouais. Est-ce que ce joueur peut devenir justement un nouvel Ibrahimovic? Parce qu'on a parlé de Maradona, Alain Giresse cette semaine nous rappelait l'importance de la stature aussi et de la petite taille notamment qui peut parfois avantager le buteur. Est-ce que là, Haaland, c'est le contraire?
Ah oui, c'est un Golgoth, oui, c'est un cyborg. Il est très très impressionnant par sa taille, sa carrure.
Et sa réussite est d'autant plus surprenante.
Et effectivement, alors, il a quand même des gènes favorables, puisqu'il faut rappeler que son père, Alf-Inge Haaland, a été un joueur international, norvégien, dont la carrière a été brisée par un tacle de Roy Keane.
Vous pensez que ça passe dans les gènes de marquer des buts?
Non, d'avoir, si vous voulez, un environnement footballistique favorable qui vous permet de vous développer de façon harmonieuse, sans éviter les erreurs. Et effectivement, il le dit d'ailleurs dans les interviews qu'il accorde, que la présence de son père l'aide à faire les bons choix, à éviter les erreurs et à se concentrer sur le football. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on le voit, il a fait des bons choix. On rappelait qu'il était à Salzbourg avant, depuis qu'il a quitté la Norvège. Là, maintenant, Dortmund, il est dans un environnement hyper favorable. En plus, beaucoup de jeunes joueurs autour de lui, notamment devant. Donc il y a une vraie complicité et une équipe qui est effectivement construite autour de lui. Donc du coup, pour le moment, il est sur une pente ascendante de façon assez météorique. La question est de savoir quand est-ce qu'il va quitter Dortmund pour aller ailleurs. Moi, j'espère pas tout de suite, parce qu'on parle beaucoup de lui au Real Madrid notamment, mais ce serait vraiment aller dans un autre univers alors qu'il est encore très jeune.
Et c'est justement le souci de son directeur sportif. On va l'entendre, ce directeur sportif qui s'appelle Michael Zorc et qui aimerait bien le conserver, son joueur.
Je suis heureux de voir l'enthousiasme qui se répand autour d'Erling Haaland. Cela signifie qu'il joue bien pour Dortmund et que nous avons fait du bon travail. Les rumeurs ne doivent pas du tout être prises en considération. Je n'ai rien à dire aux autres entraîneurs. Bien sûr, nous nous projetons sur le long terme avec lui. Il convient bien à l'équipe et il montre la voie. Il dégage une dynamique positive. Cela ne fait pas si longtemps qu'il joue avec nous, même pas un an. On a besoin de temps pour s'occuper de lui ou le ménager, mais je ne veux pas freiner sa progression. J'aimerais le voir évoluer avec nous pendant un moment encore.
Alors, on sait que surtout la primera, l'argent et les agents, n'est-ce pas, Alejandro? Mm-hmm. Mais pour ce qui est de ce buteur, il vous étonne, vous aussi?
Bah déjà, il nous avait étonné la saison dernière, hein, quand il était du côté de Salzbourg. Là, il est performant. Moi, j'y croyais pas trop au départ. Et je sais que beaucoup des clubs, des grands clubs, le regardaient de haut avec ses premières performances. Il est en train de confirmer. Là, il y a beaucoup d'admirateurs parmi nos auditeurs. Il y a un Soussaidi qui dit, s'il continue comme ça, avant 30 ans, il va dépasser CR7 et Léo. Bon, je ne sais pas. Moi, personnellement, je me dis, c'est surprenant. On n'a pas parlé du meilleur buteur de la semaine, qui est quand même Martin Braithwaite. Non seulement il a signé un doublé, mais il a fait aussi une passe décisive pour que Barcelone gagne à Kiev avec une équipe B. Donc, voilà. Il y a d'autres joueurs qui
Immobilier qui a marqué un doublé. Il y a aussi Bruno Fernandes avec Manchester United qui a marqué un doublé. Mais nous, on est un peu fascinés par Haaland, vous aussi, Rémi.
Et bien sûr, elle refait comme d'habitude. Il est fasciné maintenant par le Martin Braithwaite.
C'est à Barcelone, parce que vous voulez.
C'est incroyable. C'est incroyable. Non, Haaland, il faut savoir que, première des choses, il a une vitesse qui est stratosphérique. Parce que, il a cette capacité d'être, justement, comme Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire, il est le meilleur défenseur de l'équipe. sur les coups de pied défensifs. Donc, il est là, il dégage et il se retrouve à la finition en contre-attaque. Donc, il avale tout le terrain et il a une lucidité. Quand vous vous rendez quand même compte que sur un certain nombre de statistiques, il tente 93 tirs et il cadre. Vous vous rendez compte, il cadre 73. C'est-à-dire que il a la meilleure statistique. Pour vous dire que, à cet âge-là, avoir une précision aussi diabolique, cela veut dire quand même que, il est fait pour un grand club. Ceux qui disent qu'il est encore trop jeune.
Quel
là.
Grand club.
Ils n'ont qu'à regarder, mais.
Dortmund, c'est pas mal aussi, hein. C'est pour ça que je comprends
attends.
Les propos de Michel Mbappé, Zorc,
Mbappé parti,
qui est un ancien joueur du
Mbappé
club.
Mbappé parti de Monaco pour le PSG. Oui, il faut se le dire. Mais... tout comme Cristiano Ronaldo est parti quand même pour aller à Manchester United, ce n'était pas un petit club, hein. Il n'avait pas 50 ans. Donc, on ne peut pas attendre des joueurs
non, mais Dortmund,
avoir plus
c'est
de
pas
21
un petit
ans.
Club. Ah, mais... Dortmund, c'est un club qui a été champion d'Europe. C'est le deuxième club allemand. Il y a 80 000 spectateurs au stade quand il n'y a pas de pandémie.
Quand tu donc, parles des non. grands clubs, quand on parle des grands clubs, on voit le Real Madrid, on voit par exemple Barcelone, on voit Bayern, c'est pas quand même Dortmund. Bon,
quand on parle des 15 clubs européens, Dortmund en fait partie.
Mais peut-être qu'il y a plus grand que Dortmund, de même qu'il y a sans doute plus grand que le Paris Saint-Germain. On va passer à notre session carton, parce que désormais on donne aussi la parole à nos auditeurs.
Carton jaune.
Un carton qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Nos cartons, on va commencer d'abord par les vôtres d'ailleurs, sonores et visuels. On les adore vos cartons et on a toujours un peu de mal à les sélectionner.
Salut à toute l'équipe de Radio Foot International et Rémi Ngono. Je m'appelle Odefi Saka, je viens des îles Comores. Mon carton sera vert à la sélection comorienne pour l'exploit qu'ils ont fait dans la qualification pour la CAN 2021.
Bonjour à Radio Foot International, c'est Niakate Moussa depuis Saint-Denis en France. Je donne un carton jaune aux Aiglons du Mali qui ne défendront pas leur titre de champion d'Afrique de moins de 20 ans en Mauritanie 2021.
Bonsoir Radio Foot, c'est Amman Mohamed depuis Blangwa dans l'extrême du Cameroun. J'ai dédié un carton vert à l'équipe du Napoli pour avoir remplacé le nom du stade par celui du défunt Diego Armando Maradona.
Bonsoir l'équipe de Radio Foot International. Jean Oké depuis le Bénin. J'adresse un carton rouge à la FIFA pour la suspension du président de la CAF. Ça ne nous honore pas. Il faut laisser l'Afrique en paix.
Depuis Sewouya Salam, j'ai donné un carton vert à la FIFA qui ont suspendu Hamad Ahmad qui a fait 5 ans détruire le football africain. Vraiment, merci la FIFA, merci. L'Afrique, vive l'Afrique, merci à Ngozné.
Bonsoir Radio Foot International, c'est Alex Randa depuis le Tchad. Je donne un carton rouge à l'Olympique de Marseille qui a concédé une 13e défaite consécutive en Coupe d'Europe. Comme quoi, il préfère mouiller les réseaux sociaux que mouiller le maillot.
Bonjour Rafi, bonjour Radio Foot International, mes chers Amandji. Au carton rouge, j'adresse à Thomas Tuchel. Il n'a plus d'idée pour le Paris Saint-Germain. Il fait régresser le Paris Saint-Germain. Il faut qu'on sauve le PSG.
Pour la Radio Foot International, c'est Charles depuis le Burkina Faso. Mon carton vert part à l'encontre à toute l'équipe de Radio Foot International. De l'animateur au consultant et surtout à Annie Gassini. Merci à vous. Grâce à vous, ma voix compte. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.
Oui, salut Radio Foot. Salut Annie. Salut à tous. Moi, c'est Kozak Teyo depuis Cotonou au Bénin. Je donne un carton vert à Diego Armando Maradona et que le Seigneur Tout-Puissant l'accueille auprès de lui. Merci.
Rémi, je vous vois fasciné par les images.
Surtout Rémi, maintenant, il n'a plus de carton, puisque avant, il demandait à nos auditeurs de lui donner des
c'est
cartons.
Pas les mêmes.
Et puis maintenant,
il y a la page Rémi Ngono officielle et il y a la page
coupé
Radio
sous
Foot.
Le pied par Radio Foot.
Il y a la page Radio Foot officielle.
Non, mais en même temps, si Radio Foot peut faire comme moi, il faut toujours des pionniers. Et puis c'est comme ça, moi aussi, je copie chez Radio Foot.
on a un pionnier, c'est David Finzel et le numéro WhatsApp de l'émission. Allez-y, Rémi. Votre carton.
C'est un carton vert.
Oh non.
Ah oui. Parce qu'on a tout fait pour éviter ce beau sujet-là. José Mourinho. Alors, C'est
qu'est-ce qu'il a, José Mourinho?
Mutashiru Draman, qui donne donc un carton vert à José Mourinho de par sa façon, lui qui a souvent été critiqué. Et maintenant, on a par exemple vu contre le Dogolet, c'est quand même une équipe B du Tottenham qui l'aligne. Et bien sûr, cette équipe-là, c'est du jamais vu.
Je croyais que vous alliez me dire qu'ils avaient battu l'équipe de Guardiola.
Ils ont battu
Ludogorets.
Vous savez très bien que la semaine dernière ici, j'ai dit que Mourinho allait le tabasser. Eh bien, j'attendais qu'il vienne lui-même tomber dans le piège. Il est tombé. C'est pour ça que j'ai évoqué Ludogorets, parce que je voulais pas évoquer Pep Guardiola qui a été humilié. Donc 24 tirs contre 0 concédé et puis 4-0. Qu'il coule, Nayor, comme on dit chez nous. Donc finalement, Xavier Barré, tu peux critiquer, détester Mourinho, mais il faut savoir que la poule peut être noire, mais elle donne toujours des œufs blancs.
Moi, je critique pas Mourinho, je critique le jeu de Mourinho. C'est pas la même chose. J'ai rien contre José Mourinho, mais bon, son jeu ne me plaît pas. Et je suis pas le seul. Donc, en ce qui concerne mon carton, ça va être un carton vert à un joueur, un ancien joueur, un champion du monde de 1998, qui a pris une initiative formidable alors qu'il y a un conflit qui s'est déroulé dans l'indifférence générale de la communauté internationale, ou presque, dans le Caucase, d'affréter et d'accompagner un avion d'aide humanitaire pour...
Vous n'écoutez pas beaucoup RFI.
Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation pour aider les Arméniens dans ce conflit. Et Youri Djorkaeff, qui est d'origine arménienne, donc par sa maman, a accompagné un avion d'aide humanitaire qui est parti ce matin, je crois, pour justement apporter du soutien à ce peuple qui vit des heures très difficiles. Je trouve très bien qu'à l'heure où il y a certains joueurs qui prennent des positions via Twitter, lui, il préfère prendre ses mains, ses pieds, ses jambes, sa tête pour accompagner cette opération.
Mais il ne joue plus en club, lui. Alejandro Valente.
Moi, j'aurais évidemment la tentation d'être comme l'auditeur béninois qui donnait un carton vert à Maradona, mais pour ne pas me répéter, je vais donner la parole à Adam Maidiaga Faye, qui donne deux cartons rouges pour le match Inter Milan Real Madrid, un à Arturo Vidal pour son irresponsabilité et l'autre à l'arbitre pour ne pas consulter la VAR. Donc voilà, deux cartons rouges.
C'est vert, elle refait aujourd'hui. Ouais,
mais du coup, ça a qualifié le Real de Rémi, donc tout allait bien.
Ça n'a pas qualifié encore.
Le carton, justement, de Radio Foot International. D'habitude, on a vert, jaune et rouge, mais nous, aujourd'hui, il sera en or, notre carton. Et vous avez compris pourquoi. Un carton d'Oro, au PIB d'Oro, qui nous a fascinés et qui, cette semaine, nous a beaucoup fait pleurer. Mais on va quitter, justement, cette émission. On va refermer le Café des Sports avec Diego Maradona. Diego Maradona qui chante lui-même et qui refermait le film de Emir Kusturica. C'était un film consacré à la star argentine et il avait chanté à la fin Mano de Dios, tout un symbole que cette chanson. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Merci messieurs et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Porque